Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours sur le livre de Daniel, après effectivement une grande interruption liée à toute la période difficile que nous traversons et les fêtes aussi. Et on est arrivé au chapitre 3. Je voudrais juste signaler que nous allons procéder d'une manière un petit peu différente, donc j'espère que, avec l'aide du Maître du Monde, ce cours va tenir toutes les semaines, le plus longtemps possible, car il est absolument important que nous puissions avancer dans l'étude du NAR, la Bible en français. Pour l'instant, on a commencé avec le livre de Daniel. J'avais, dans les premiers cours, j'avais donc décidé de lire et de traduire en même temps, mais je me suis rendu compte que c'était une perte de temps, et j'ai décidé maintenant d'apprendre le chapitre ou les passages que je veux vous expliquer. Je vais les apprendre plus ou moins par cœur. Je vais directement les traduire oralement sans que j'ai besoin de lire dans le texte et de traduire au fur et à mesure. Je pense que ce sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile pour vous. Et au fur et à mesure, expliquer bien évidemment. Alors je voudrais juste faire un résumé important de ce qui a été vu dans les derniers cours, parce que comme il y a eu une grande interruption, je pense que la majorité d'entre vous ne savent plus ou moins où on en était. Donc, on avait parlé du rêve de Nabucodonosor. Il avait donc vu une statue et l'explication va lui être donnée par Daniel. Donc, il avait vu une statue et elle avait le haut, la tête était en or. Après, le haut du corps était en argent. Le bas du corps était en cuivre et les jambes étaient en fer, et au niveau des pieds il y avait un mélange entre le fer et la terre. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, c'était des cours très très importants et je vous invite bien évidemment à les réécouter, mais très 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 globalement, au niveau du résumé, on avait expliqué, c'est Daniel qui l'explique lui-même, que le haut de la tête en or, l'or est la matière la plus précieuse, représente la civilisation de Nabucodonosor, la civilisation babylonienne. Puis après, cette civilisation va être elle-même détruite par les Perses, représentée par le haut du corps, Cyrus, qui détruit la Babylonie et qui, eux, sont comparés à l'argent. Après, les Perses eux-mêmes vont être détruits par les Grecs, représentés par le cuivre, le bas du corps. Et puis après, on rentre dans la civilisation romaine, représentée par le fer, les jambes. Et à la fin de la civilisation romaine, il y aura un mélange entre le fer et la terre, c'est-à-dire entre le monde occidental et l'islam, comme on le voit aujourd'hui plus que jamais. Puisque partout aujourd'hui dans le monde occidental, l'islam se mélange de plus en plus et très vite on ne saura plus exactement qui est quoi. Et donc Daniel a été capable, il y a plus de 3000 ans, d'expliquer que juste avant la délivrance finale, il y aura un mélange total entre la civilisation occidentale d'origine chrétienne et l'islam, et c'est ce que l'on vit aujourd'hui. C'est déjà en soi une preuve inimaginable comme quoi il faut véritablement prendre au sérieux toutes les prophéties qui sont dans le NAR, car on voit des millénaires après que tout se réalise avec une précision plus précise que la science et que les mathématiques elles-mêmes. Donc, quel est le résumé finalement de cette statue? Elle nous montre que chaque civilisation, aussi puissante soit-elle, j'avais expliqué dans les précédents cours pourquoi la Babylonie est comparée à l'or, pourquoi elle semble être la plus puissante de toutes les civilisations, puisqu'elle, encore une fois, elle est comparée à l'or, mais d'un autre côté, elle-même va être détruite par les Perses vont être détruits par les Grecs vont être détruits par les Romains, et jusqu'à la délivrance finale. Et comment se termine finalement cette histoire ? Chaque civilisation, bien qu'apparemment elle semble moins importante que celle qui précède, puisqu'elle est comparée à un matériau qui est moins précieux que le précédent, l'argent est moins précieux que l'or, et pourtant c'est l'argent qui va détruire l'or, etc., etc. J'avais expliqué ça dans les précédents cours. Et puis finalement, comment tout se termine? Une pierre va sortir de nulle part, elle va tomber sur les pieds, donc sur la fin de toutes ces civilisations, le mélange entre l'Occident et l'Islam. Cette pierre va tomber sur les pieds de la statue et va la faire tomber complètement, et ça va être la délivrance finale. Ce qui veut dire que non seulement chaque civilisation va détruire celle qui précède, ben c'est toute l'histoire telle que nous la connaissons, mais en plus toutes ces civilisations qui sont représentées par cette statue, qu'on pourrait donc comparer à l'idolâtrie, au culte de l'idéologie telle qu'on va en parler, et toutes ces civilisations elles-mêmes vont disparaître grâce à cette pierre qui, comme on l'avait expliqué, représente finalement la force du Mashiach qui va détruire toute l'idolâtrie de toutes les civilisations, tout le culte de l'ego, tout le culte des idéologies civilisatrices. Elles vont toutes disparaître grâce à cette pierre qui représente le Mashiach et qui va amener le monde dans la délivrance finale. Donc ça, c'est ce qu'on avait expliqué. Si on devait s'arrêter là, on devrait apparemment, dans notre naïveté bien évidemment, arriver à la conclusion que finalement chaque civilisation devrait avoir beaucoup d'humilité et comprendre que finalement, aussi puissante elle est, en tous les cas c'est ce que Nabucodonosor entend véritablement de la part de Daniel. Après il n'y aura plus de prophètes et les Perses, les Grecs, les Romains, eux ne vont pas entendre véritablement que leur civilisation va être détruite. Mais en tout cas, Nabucodonosor, lui, l'entend. En plus, on voit comment qu'il réagit. Il se prosterne devant Daniel, il en fait presque un dieu dans la fin du deuxième chapitre du livre de Daniel. Donc, il croit véritablement à ce que Daniel lui annonce, puisqu'encore une fois, il l'élève à un niveau presque en faire un dieu. Donc, il le croit. Donc normalement, il aurait dû avoir beaucoup d'humilité et finalement ne pas se prendre trop au sérieux, sachant que très vite, toute sa puissance va disparaître et va être remplacée par une civilisation apparemment moins puissante que la sienne, mais qui va arriver à le détruire complètement. Alors, on va voir maintenant dans le troisième chapitre que c'est tout le contraire qui va se produire. Je vais vous expliquer oralement le troisième chapitre. Ceux qui comprennent l'hébreu ou qui veulent le lire en français pourront le lire par eux-mêmes, mais voilà le résumé. Nabucodonosor, après avoir entendu ce que Daniel lui dit, après avoir reconnu la grandeur de Daniel, au lieu encore une fois de réagir d'une manière très humble, va réagir à l'extrême opposé. Il va faire construire une immense statue qui est complètement en or. Pourquoi complètement en or? Parce que lui représente l'or. Mais bien que lui ne représentait dans la statue qu'il avait rêvée, expliquée par Daniel, bien que lui ne représentait que le haut de la statue, là il va faire une statue complètement en or, jusqu'aux pieds. Et on pourrait dire le message, on le comprend, comme si tout d'un coup, après avoir reconnu, après s'être prosterné devant Daniel, c'est comme si maintenant il niait tout ce que Daniel lui avait dit, et au contraire, c'est comme si maintenant il prétendait que sa civilisation va durer jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrémité des pieds. Donc il y a un renversement total de Nabucodonosor par rapport à son attitude précédente à la fin du deuxième chapitre, où il remercie Daniel, il se prosterne devant lui, il en fait un dieu, et tout d'un coup il change complètement et dit non, absolument non, je n'accepte pas ce que Daniel m'a dit, ma civilisation durera jusqu'à la fin. Et donc il ordonne de faire une statue immense comme celle du rêve, mais qui est entièrement en or, comme pour dire ma civilisation ne disparaîtra jamais. Et il invite, puisque c'est un empire, donc il invite tous les dirigeants des pays qu'il a soumis et tous les peuples, il les invite à se prosterner devant cette statue. Donc il organise une très 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 grande fête avec des gens qui vont avec des instruments de musique, des trompettes, des tambours, toutes sortes d'instruments de musique, et qu'il va répandre dans tout son pays, et il invite des milliers de chefs d'armée, des milliers de princes, des milliers de dirigeants de tous les pays qu'il a lui-même conquis et soumis, à venir sur cette immense, immense, immense place qui peut contenir des milliers de personnes, où se trouve au milieu où se dresse cette statue. Et donc, il demande à tous les peuples qui n'ont pas pu venir de se prosterner en direction de la statue au moment où ils entendront les trompettes sonner. Et pour tous ceux qui sont arrivés sur la place où se trouve la statue, de la même manière, dès que les trompettes, les tambours et les instruments de musique se mettront à résonner, à ce moment-là, tout le monde se prosterne devant la statue qui représente sa civilisation, qui, d'après son fantasme, est censée durer jusqu'à la fin de l'histoire. Et il prévient que tout celui qui ne se prosternera pas sera immédiatement pris et jeté dans une fosse remplie de feu, et il sera entièrement brûlé. Ça sera sa punition pour avoir osé aller contre l'ordre de Nabucodonosor et son refus de se prosterner devant cette statue. Il organise, ça prend bien sûr le temps de construire la statue, ça prend des mois, le temps de faire savoir à tous les peuples de ce qui est prévu, ça prend un certain temps, et on en arrive au grand jour où tout le monde doit se prosterner devant la statue. Évidemment, Nabucodonosor lui-même ne peut pas voir si tout le monde va se prosterner ou non, et tout est mis en place. La musique commence, les trompettes, le tambour, les instruments de musique, et tout le monde se prosterne. En tous les cas, Nabucodonosor voit que tout le monde se prosterne. Mais, tout de suite après cet événement, viennent de nombreux princes, de nombreux généraux, de nombreuses personnes importantes qui disent « Nabucodonosor, tous les peuples se sont prosternés, tous les dirigeants se sont prosternés, mais il y en a trois qui ne se sont pas prosternés. » Tiens, trois, oui, ce sont trois juifs qui ne se sont pas prosternés. Qui sont-ils? Ben, les amis de Daniel, Michel, Hanania et Azaria. Ils ne se sont pas prosternés. Hanania, pardon, ils ne se sont pas prosternés. Comment? Nabucodonosor rentre dans une colère inimaginable. Pourtant, c'est quand même Daniel, un juif, qui lui avait dit que son empire ne durerait pas si longtemps que ça. En plus, n'oublions pas que ces trois personnages qui ne se sont pas prosternés devant la statue avaient été nommés par Nabucodonosor lui-même à des postes de responsabilité très très hauts dans l'État babylonien. Il leur avait même changé leur nom et leur avait donné des noms babyloniens. Et donc ils avaient un poste très très important, donc tout de suite Nabucodonosor les reconnaît, il sait tout de suite de qui il s'agit. Il rentre dans une colère inimaginable et il les fait immédiatement convoquer. Il leur dit « C'est vrai ce que j'ai entendu? Vous ne vous êtes pas prosternés devant la statue ?» Et ils répondent « Oui, nous ne sommes pas prosternés devant ta statue. » Et à ce moment-là, il lui explique « Sache que bien que nous te respectons, bien que nous acceptons que tu es notre roi et notre dirigeant, en plus, tu nous as donné des postes importants dans ton gouvernement et nous essayons de la meilleure manière possible d'exécuter les ordres que tu nous as donnés, etc. Mais sache que c'est uniquement sur le plan technique. Nous respectons ta royauté, nous respectons ton pouvoir, nous faisons tout pour que ton pays et ta civilisation prospèrent. Mais attention, ne mélangeons pas l'idéologie, la religion avec notre travail. » C'est-à-dire que nous n'acceptons, sur le plan spirituel et moral, nous n'acceptons que notre Dieu. Et nous refusons absolument de nous prosterner devant ton idole, parce que derrière cette prosternation, et bien évidemment, se cache une idéologie, se cache même une sacrée même idolâtrie, puisque se prosterner devant une statue, c'est évidemment l'un des commandements les plus interdits de la Torah. On ne se prosterne pas devant une statue. Et donc, il s'agit ici d'un acte idolâtre qui nous demande d'aller contre notre Dieu, et c'est hors de question. Nous te respectons en tant qu'homme, nous respectons ton pays en tant que pays d'être humain, mais si tu veux nous imposer ton idéologie, ta religion et ta conscience, c'est hors de question. Nabucodonosor rentre dans une colère inimaginable et leur dit « Écoutez, je vous donne une deuxième chance. Je vais à nouveau faire un grand rassemblement, et je vais vous demander cette fois-ci de vous prosterner devant la statue. Je vous donne une deuxième chance, et si vous ne le faites pas, je vous jette dans la fournaise. Et je demanderai même que la fournaise, on y mette sept fois plus de feu que d'habitude, de manière à ce que à peine vous allez vous approcher, vous serez déjà complètement brûlé. Tellement le feu dans la fournaise sera puissant. Tout de suite, il répond à Nabucodonosor, écoute, c'est pas la peine de te fatiguer d'organiser un deuxième rassemblement, etc. On te le dit d'avance. Nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Le seul devant lequel nous nous annulons, c'est devant le maître du monde, le Dieu d'Israël, qui est en vérité le Dieu de l'humanité tout entière. Mais pour l'instant, vous ne l'avez pas reconnu, mais nous, Israël, nous l'avons reconnu. Donc, c'est même pas la peine. Nous refusons de nous prosterner. Encore une fois, sa colère le rend complètement fou. Il ordonne sur le champ de mettre un feu terrible dans ce trou dans lequel doivent être jetés ces trois personnages. Et il demande à des soldats extrêmement forts de les prendre et de les jeter de loin, parce que s'ils s'approchent trop de la fournaise, eux-mêmes les soldats vont être brûlés par toutes les flammes qui sortent, etc. De les prendre et de les jeter dans la fournaise. C'est ce qui se passe, donc on met le feu dans la fournaise, il y a bien sûr des milliers de personnes qui vont assister à ce massacre, et les soldats très forts les prennent et se tiennent à distance de la fournaise et les jettent. Malgré tout, nous dit le texte dans le troisième chapitre, les flammes sortent tellement fort et vont tellement loin qu'elles arrivent même à atteindre les soldats qui ont pris ces trois juifs pour les jeter dans la fournaise, et eux-mêmes, alors qu'ils se tenaient à distance de la fournaise, sont entièrement brûlés. Malgré tout, ils sont arrivés à les jeter, les trois juifs, dans la fournaise, et ils tombent dans la fournaise. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Un miracle. Les flammes, non seulement ne les brûlent pas, mais ne brûlent même pas leurs habits. Et tout d'un coup, Nabucodonosor, puisqu'il est sur une estrade en hauteur, voit comme un quatrième personnage qui se trouve avec eux dans cette fournaise, et il reconnaît que c'est un ange descendu du ciel, en fait c'est l'ange Gabriel, il reconnaît que ce n'est pas une créature humaine normale, et tout de suite il commence à comprendre que ces trois se sont protégés par leur Dieu, qui leur a envoyé un ange pour les protéger. Il prend conscience que finalement, le maître du monde existe. À nouveau, il change complètement sa tête. Il demande immédiatement qu'on éteigne le feu. Ils sortent de la fournaise intacts, sans la moindre blessure, sans la moindre brûlure. Et à ce moment-là, Nabucodonosor écrit et transmet dans tous les pays qu'il domine un décret comme quoi il demande à tous ceux qui sont sous sa direction de vénérer le Dieu d'Israël, de reconnaître sa grandeur, et il émet un décret comme quoi s'il entend ou si on dénonce quelqu'un qui dira du mal du Dieu des Juifs, il sera immédiatement coupé en morceaux. Ça veut dire qu'il sera coupé en morceaux, ça veut dire donc qu'il sera torturé à mort et on commencera à lui couper les pieds, après les jambes, etc., jusqu'à ce qu'il en meure. Donc une punition terrible. Et lui-même se prosterne devant les trois juifs qui avaient refusé de se prosterner devant la statue, et il les remet au poste qu'ils avaient, même plus encore, dit le texte, il leur donne encore plus de responsabilités. Et il a pour eux et pour le Dieu d'Israël un respect inimaginable. Voilà donc le texte que je voulais donc vous expliquer aujourd'hui. Alors on va maintenant évidemment essayer de comprendre plus profondément ce qui se passe. En revenant à la question que j'avais suggérée dès le départ, à partir du moment où on voit que Nabucodonosor a un respect immense pour Daniel et accepte son interprétation au point même de se prosterner devant lui et en faire un dieu, qu'est-ce qui se passe tout de suite après qu'il demande à ce qu'on fasse une statue qui est complètement en or pour symboliser le fait qu'il ne croit plus ce que Daniel lui a dit, « ma civilisation régnera jusqu'à la fin ». Et puis après, il se met en colère contre trois juifs qu'il respectait énormément puisqu'il leur avait donné des fonctions extrêmement importantes dans son royaume. Il les jette dans la fournaise et puis à nouveau, quand il voit que finalement le Dieu d'Israël les a sauvés, encore une fois un retour et il se prosterne devant eux, il les élève à un niveau plus haut encore et il émet un décret comme quoi tout celui qui manquera de respect au Dieu d'Israël sera coupé en morceaux. Qu'est-ce qui se passe? Revenons maintenant au début. Pourquoi cette statue complètement en or? Je pense que l'explication est très simple. C'est une explication qui est peut-être celle dont parlent le plus les secrets de la Torah, le Zohar et tous ceux qui s'occupent de comprendre profondément l'histoire humaine, dit dans un langage codé, mais que nous avons le devoir de décoder de manière à l'expliquer à tous et à toutes. Nos maîtres expliquent depuis le départ de l'histoire humaine, que le domaine dans lequel il y a le plus de forces contraires, le plus d'impureté, c'est dans le domaine de ce qu'on appelle, dans le langage du Zohar, la malchut, la manigou, c'est-à-dire donc le pouvoir. Le pouvoir est le domaine qui rend le plus les hommes fous, les aveugles, et finalement, même s'ils prennent conscience et même s'ils ont pris conscience que finalement ils se trompaient ou que les choses devraient prendre une autre direction que selon leurs fantasmes, ils n'arrivent pas à tenir. Le culte de l'ego, le pouvoir les aveugle complètement. Et même si hier ils ont admis qu'ils se trompaient complètement, le lendemain ils peuvent complètement changer. Pourquoi ? Parce que nos maîtres expliquent dans les secrets de la Torah que le domaine qui a été le plus touché par le Yetzer Hara, par le mauvais penchant, par les forces négatives, c'est le domaine du pouvoir. Quand je parle du pouvoir, je ne parle pas seulement du pouvoir politique, mais le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la force physique, peu importe, partout où un homme a un certain pouvoir, dans chaque domaine où il brille et où il est fort, et où il est reconnu comme étant fort, très vite, toutes les forces contraires s'acharnent contre lui pour le rendre fou, l'aveugler complètement et lui faire oublier toutes les vérités qu'il savait, jusqu'au point de le pousser à un comportement qui est à l'extrême opposé. Pourquoi précisément le pouvoir? Je l'ai déjà dit, c'est le culte de l'ego. Nos maîtres nous révèlent que l'ego est la source, la racine de toutes les chutes de l'homme dans toutes les fautes de ce monde. L'idolâtrie, la débauche, le meurtre, le vol, etc. L'ego. C'est quoi l'ego? C'est finalement le sentiment d'être le plus fort, d'être le meilleur. Et dès qu'un homme a le sentiment, que ce soit dans le domaine, si c'est un grand savant, un grand médecin, un grand avocat, un grand homme d'affaires, un grand politicien, et même, je suis obligé de le dire, même dans le domaine spirituel, comme je l'ai dit dans un cours il y a quelques semaines, même dans le domaine spirituel, on a dans la Bible des exemples d'hommes qui étaient extrêmement grands sur le plan spirituel et au départ étaient extrêmement grands dans le véritable sens du terme et sont complètement tombés. Achitophel, le bras droit spirituel de David, sur lequel la Torah dit que chaque conseil que Achitophel donnait à David et donnait au peuple juif, c'était comme si c'est Dieu lui-même qui parlait, un homme extraordinaire, fabuleux. Mais sa puissance spirituelle, qui au départ était authentique, lui est montée à la tête, et il s'est révolté contre le roi David, il a soutenu la révolte de son fils Absalom contre le roi David, et finalement quand il a vu que le roi David arrivait à reprendre le dessus, il s'est suicidé. Ça veut dire deux fautes inimaginables. David t'avait donné toute sa confiance, avait pour toi un respect inimaginable, car tu étais un géant dans le sens authentique du terme. Et puis tu te révoltes contre le roi David, alors que vous avez passé des années à étudier ensemble les secrets de la Torah, comme l'enseignent nos maîtres, et tu soutiens la révolte de son fils qui veut tuer son père. Et puis après tu te suicides, ce qui est une faute inimaginable, mais tu as perdu la tête. Oui. même dans le plan spirituel, même si au départ on parle d'un homme bien, un homme extraordinaire, comme le roi David dit dans les psaumes, c'était le seul dans lequel il avait une confiance absolue. Et pourtant, il était prêt à tuer le roi David. La puissance spirituelle, même une puissance spirituelle, lui montait à la tête. Il est devenu fou. On a un autre exemple dans la Torah, dans la Bible, dans le Nar. Jéroboam. Nos maîtres nous disent qu'au départ, c'était un homme exceptionnel, extraordinaire. C'est le seul qui a eu le courage de se révolter contre le roi Salomon qui, à la fin de sa vie, imposait des impôts inimaginables à tout Israël pour pouvoir construire des palais à ses femmes, et ses femmes remplissaient les palais d'idoles, etc. Tout le monde se rendait compte que Salomon, vers la fin de sa vie, avait perdu la tête. Le seul qui a eu le courage de se révolter contre lui, ça a été Jéroboam. Sa tête a été mise à prix, il s'est enfui en Égypte. Après la mort du roi Salomon, il est revenu. Et son fils, au roi Salomon, Rehavam, a été dans la même direction que son père. Lui aussi prélevait des impôts inimaginables. C'était un pauvre type, vraiment un pauvre type, ce bonhomme-là. Et Jéroboam, gentiment, est venu lui dire, écoute, baisse les impôts, on est prêt à te suivre comme roi, mais tu ne peux plus aller comme ton père, nous prendre les deux tiers de ce qu'on gagne, c'est impossible. Surtout que toi, tu n'es pas marié avec 1000 femmes. Tu n'as pas besoin de construire des palais à tes femmes. Arrête. Rehavam a refusé, Jéroboam s'est révolté, il a pris avec lui les 10 tribus. Jusqu'à là, il est encore très bien, il ne fait que des choses bien. Et tout d'un coup, le pouvoir lui monte à la tête, car c'est lui qui est finalement le chef des 10 tribus, alors que Rehavam n'a gardé que 2 tribus, Yehuda et Benjamin. Ça lui monte à la tête, tout de suite il introduit l'idolâtrie dans son peuple, 2 veaux d'or, et il devient une crapule inimaginable. Hachem l'aimait tellement, ce Jéroboam avait tellement de mal à voir qu'il avait perdu la tête, qu'un jour, disent nos maîtres, il s'est révélé à lui et il lui a dit « Fais teshuva, reviens vers moi et je te promets que je te pardonnerai. Et toi, moi et David, on se promènera ensemble, tous les 3 dans le Gan Eden. » Et Jéroboam lui a dit « Et qui sera le plus proche de toi, David ou moi ?» Hachem lui a dit « Bon, ça sera quand même David. » Elle a dit « Non, ça ne m'intéresse pas. » Et il a continué. Et il est, dans la Bible, symbolisé comme le modèle de ce qu'il y a de plus infâme dans l'histoire de notre peuple. Au départ, nos maîtres disent que c'était un homme exceptionnel dans le bien, dans la vérité, dans l'authenticité. Le pouvoir l'a rendu fou. On a quantité d'autres exemples. Doeg, Shaoul, le roi Shaoul aussi, nos maîtres nous disent que quand il est devenu roi, il était comme un enfant de 1 an, qui n'avait jamais fauté. On sait comment qu'il a agi avec David après. Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est pas forcément les crapules que le pouvoir rend encore plus crapuleux. Même des gens extraordinaires, qui au départ sont des gens d'une authenticité inimaginable, dès qu'ils arrivent à un certain pouvoir, peu importe dans quel domaine, mais c'est vrai que c'est dans le domaine politique que là, le pouvoir rend le plus fou, dès qu'ils arrivent à ce niveau-là, ils deviennent complètement fous, méchants, cruels, ils perdent complètement la tête. Et il n'y a pas une exception à la règle depuis le début de l'histoire. Si des géants de spiritualité et de morale, comme Jéroboam, comme Doeg, comme le roi Shaoul, comme Achitophel, ont pu devenir des monstres, alors ne parlons pas d'un homme qui n'avait pas ce niveau-là avant d'atteindre le pouvoir, que ce soit dans l'argent, dans la politique ou peu importe où. Tous deviennent des monstres. Alors il y a des monstres déguisés qui savent avoir une belle vitrine, comme tous les dirigeants dans la démocratie aujourd'hui. Ils ont appris comment faire pour qu'on ne sache pas trop qui ils sont. Mais à l'époque des dictateurs, comme Nabucodonosor, c'était... Alors tu te prosternes devant David, tu reconnais qu'il a raison, et le lendemain tu fais tout le contraire. Il y a quelque chose ici d'absolument incroyable. Nos maîtres, encore une fois, expliquent que la racine de tous les défauts et de toutes les chutes de l'homme et de l'humanité, c'est l'ego. Essayons de comprendre pourquoi. Plus l'ego est fort, plus la réussite est grande, et plus tu es en danger, c'est même pas en danger, c'est sûr que tu vas tomber dans quelque chose d'absolument incroyable. Alors, juste une parenthèse, est-ce que tous sont tombés ? Non ! Le roi David n'est pas tombé. Le roi David n'a pas voulu remplacer Hachem. Et il a toujours été lié à Hachem comme on ne peut même pas l'imaginer. Il y a eu bien sûr quelques exceptions, mais on peut les compter sur les cinq doigts de la main. David, le roi Chizkiyahou, encore deux ou trois. Des gens très riches qui sont restés des justes jusqu'à la fin de leur vie. On a dans le Talmud, Rabbeinu HaKadosh, qu'il était aussi riche que César, et c'était le plus grand maître de sa génération, qui était un homme inimaginablement grand, authentique. Donc on a des exemples de gens très riches ou des gens qui ont un pouvoir inimaginable, David, Rabbeinu HaKadosh, etc., qui, le pouvoir ne leur est pas monté à la tête. Mais ce sont des exceptions qu'on peut compter sur les 10 doigts de la main. Je ne sais pas si on en arrive à plus que 10 dans toute l'histoire humaine. J'imagine que chez les non-juifs aussi, il y a dû y avoir des gens extraordinaires aussi. Mais encore une fois, sur les 5 ou les 10 doigts de la main, 99,9% de gens qui ont réussi et qui ont grandement réussi, même si au départ c'était des gens extraordinaires, tous deviennent des crapules, avec des nuances, mais tous deviennent des crapules. Et c'est ce que la Torah veut nous faire comprendre ici avec Nabucodonosor. Il entend de la bouche de Daniel ce qui va se passer. Il montre qu'il a entièrement confiance en Daniel au point de se prosterner devant lui et d'en faire presque un dieu. Et le lendemain, il fait tout le contraire. Alors, c'est quoi l'histoire de l'ego ? En vérité, mes amis, il y a ici un secret absolument incroyable. C'est que, comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit quelqu'un qui s'annule devant lui dans le sens « je ne suis rien, je ne suis pas grand-chose, je suis y a que toi ». Ça, c'est ce que j'appelle la religion. D'accord ? Ça veut dire que l'homme, finalement, devient un morceau de chiffon passif qui s'en remet entièrement à Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est mon sauveur, c'est mon libérateur, c'est mon ci, c'est mon ça, ça. Il y en a des hommes comme ça, il y en a plein, dans toutes les religions. Et ça, ce n'est pas des hommes, c'est des animaux. C'est des chiens qui vont après leur maître. Ce n'est pas ça un homme. D'après la vision profonde et authentique de la Torah, qui est la seule vision authentique de ce que doit être le rapport entre l'homme et Dieu, Hachem voulait sur terre un homme puissant, fort. Quelle est la plus grande preuve ? Un verset explicite dans la Torah. La paracha que l'on vient de recommencer cette semaine, ce Shabbat qui est derrière nous. Hachem crée l'homme et lui dit « Tu domineras toutes les créatures de la terre et tu conquerras le monde. » Ça veut dire que Hachem, dès le départ, lui dit « Je t'ai créé pour que tu sois puissant. » Pas pour que tu sois un petit religieux, là, un petit curé ou un petit rabbin, j'en sais rien, là, qui toute la journée « Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. » Non. L'homme a été créé pour être puissant. Parce que Hachem voulait un associé, un vrai, qui, comme lui, qui est puissant. Mais quel est le problème ? C'est qu'en même temps que je te donne la force et la puissance, comme le dit le verset, tu te souviendras que c'est moi qui te donne la force de mener tous les combats que tu mènes dans ce monde. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit un combattant, pour qu'il réussisse. Mais en même temps, tu te souviendras que c'est moi qui te donne la force de réussir. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme est dans la situation la plus compliquée, qui est complètement au-dessus même de la compréhension. D'un côté, tu me demandes d'être puissant, mais d'un autre côté, tu me demandes de ne jamais oublier que tu es à mes côtés et que tout ce que je suis et tout ce que je réussis, c'est grâce à toi. Mais c'est très dur. Mais effectivement, le maître du monde a placé l'homme dans la situation la plus dure qui existe. Et c'est pour ça que le monde se divise en deux catégories, comme je ne cesse d'expliquer. Les vrais puissants, qui sont des monstres, et les vrais religieux, qui sont des petits toutous, qui suivent leur maître. Maintenant, un homme extrêmement puissant, qui en même temps sait qu'à chaque milliardième de seconde, tout ce qu'il est, il le doit du maître du monde, on a eu un seul exemple parfait, le roi David. Un guerrier d'une puissance inimaginable, et ça ne lui est jamais monté à la tête. Il est arrivé à, d'un côté, avoir un pouvoir, une réussite, une puissance incroyable, et de l'autre côté, s'annuler complètement devant Hachem. On a eu un autre exemple avant le roi David, Moshe, comme je l'ai toujours expliqué. Moshe est un combattant. Depuis le premier jour où on parle de lui, il se bat, il tue un Égyptien. Après, d'après notre tradition, il s'enfuit en Afrique et il est à la tête de plusieurs révoltes contre tous les dictateurs africains qui oppressaient les peuples. Et puis après, il revient à Midian, il voit les bergers faire du mal aux filles de Pharaon, aux filles de Yitro. Il a déjà 80 ans, il se bat contre eux. Après, il se bat contre Pharaon, il met l'Égypte à genoux. Il libère un peuple d'esclaves, il le soutient pendant 40 ans dans le désert. À la fin de sa vie, il a 120 ans, il se bat contre les deux rois les plus puissants, Og et Sichon, deux rois cananéens. C'est lui qui a commencé les guerres contre Canaan et il arrive à les vaincre. C'est un véritable guerrier, mais d'un autre côté, qu'est-ce que la Torah dit sur lui? Le plus humble des hommes. Et comment le plus puissant des hommes peut être le plus humble des hommes? Mes amis, voilà la vision authentique de la Torah. La seule vision authentique de l'homme sur terre. L'homme a été créé pour être puissant et en même temps être le plus humble des hommes. Et cette équation est pratiquement impossible à réaliser. C'est pour ça que tout le monde tombe. Les uns choisissent la puissance et deviennent des monstres. Les autres choisissent la religion et deviennent des toutous. Trouvez-moi un homme puissant qui s'annule complètement devant le maître du monde. Il est puissant, mais il s'annule complètement. C'est pour ça que l'homme a été créé. Et ça fait des millénaires que nous tournons en rond parce que nous n'arrivons pas à résoudre cette équation surnaturelle. Comment je peux être puissant et m'annuler devant le maître du monde? Comment je peux être milliardaire? Comment je peux diriger l'empire le plus puissant et m'annuler devant le maître du monde? C'est impossible. Voilà la raison pour laquelle l'homme a été créé. Et le maître du monde est patient. Il est prêt à attendre des millénaires. Maintenant, on rentre dans la paracha de Noah, le déluge. Oui, des catastrophes inimaginables vont se passer jusqu'à ce que finalement on arrive à la délivrance. Et ça sera quoi le Mashiach? Vous croirez un petit curé ou un petit rabbin comme ça qui va venir avec une auréole sur la tête et qui va dire « Soyez gentil, aime ton prochain comme toi-même. Le bon Dieu a dit, c'est notre sauveur. » Mais pas du tout. Nos maîtres décrivent le Mashiach comme un milliard de fois ce qu'était David. Un homme d'une puissance, d'un courage, d'une volonté, d'une détermination, un guerrier qu'on ne peut même pas imaginer. Vous imaginez ? Pour arriver à nettoyer tout le mal qu'il y a dans ce monde, la force qu'il va devoir avoir. Vous imaginez? Mais d'un autre côté, un homme qui s'annulera devant Hachem comme jamais personne ne s'est jamais annulé sur terre. Plus encore que Moshe, plus encore que David. C'est pour ça que lui sera le Mashiach. Comment c'est possible? Vous voyez que l'homme n'a pas été créé pour une raison simple et facile, crois en Dieu, prie, non. Tout celui qui n'est pas puissant, mais qui en même temps n'est pas annulé devant Hachem, n'est pas un homme authentique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cherchez-moi un homme authentique dans la génération, le premier qui en trouve un, il a gagné. En même temps puissant et en même temps complètement annulé devant Hachem. Il y en a un ou deux toutes les 150 000 générations. Voilà. Voilà le secret de la création de l'homme. Ça tombe très bien ce cours parce qu'on est au début justement de la Torah maintenant, on a recommencé le récit de la création, le récit de la création de l'homme. Voilà pourquoi l'homme a été créé. Et ça fait des millénaires et des millénaires et des millénaires que nous attendons enfin cet homme. On en a eu, Moshe, on a eu David, on a eu deux ou trois. Mais voilà. C'est pour ça que les gens bien choisissent d'être des moutons, des toutous. Parce qu'ils ont peur de tomber dans le culte de l'ego et de devenir des monstres. D'une certaine manière, je dirais presque, mieux vaut être un toutou qu'un monstre. Mieux vaut être un petit religieux gentil qu'un Hitler ou un Staline, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, ni l'un ni l'autre ne sont des hommes. L'un c'est un monstre, l'autre c'est un toutou. Mais où est l'homme? Où est l'homme? Et malheureusement, comme je dis souvent, les religions depuis des millénaires nous transforment en toutou parce qu'elles nous mentent. En nous faisant croire qu'on doit s'annuler uniquement, ne pas se mettre en avance, ne pas chercher l'argent, ne pas chercher le pouvoir, ne pas chercher ci, ça c'est pour les méchants. Mais finalement, les religions sont l'un des plus grands mensonges qu'il n'y a jamais eu sur Terre. C'est l'extrême absolu contraire de la Torah, de la vraie Torah, qui nous dit « Sois un homme puissant, mais annule-toi devant Hachem ». Donc vous voyez que ce message nous transmet avec Nabucodonosor, nous transmet quelque chose d'extraordinaire. Il se prosterne devant Daniel, il prend conscience qu'il est dans l'erreur totale, que finalement il n'y a que Dieu sur terre, et le lendemain il fait tout le contraire. Parce que c'est très très dur d'avoir le pouvoir et de rester au niveau d'une conscience authentique. Et comme on va le voir plus tard, à nouveau, à la fin du troisième chapitre, il reconnaît la grandeur d'Hachem quand il a vu qu'ils ont été sauvés de la fournaise, mais il recommencera à être une crapule 5 minutes après. Ça veut dire que, encore une fois, c'est ça le message. Tu veux être un homme authentique, un homme vrai. Ne te sépare pas du monde. Ne vis pas comme une serpillière. Ne vis pas comme un homme qui attend tout de Dieu. Investis-toi, fais, réussis. Mais en même temps, n'oublie jamais que tout ce que tu es à chaque milliardième de fraction de seconde, ça te vient d'Hachem. Et ça, c'est le modèle, on pourrait dire pratiquement inexistant depuis le début de l'histoire humaine. Inexistant. Alors comment qu'on arrive à ça? Terminons notre cours en expliquant, mais comment qu'on arrive à ça? Comment qu'on peut être un homme puissant et en même temps être un véritable croyant? Comment qu'on y arrive? Alors première réponse, en étudiant la vraie Torah, parce que la vraie Torah ne parle que de ça. La vraie Torah ne parle pas des moutons qui se prosternent devant Dieu. Elle ne parle pas de ça. Elle ne les supporte pas, ces moutons-là. La vraie Torah, elle nous parle de Moshe, elle nous parle d'Abraham, elle nous parle de David. Elle nous parle, quand elle nous montre des modèles, elle nous montre des gens forts. Donc celui qui comprend la vraie Torah et qui n'est pas aveuglé par, on pourrait dire, les lunettes de la religion, celui-là va comprendre que la Torah nous demande d'être des gens qui s'investissent et qui réussissons. Qui faisons bouger les choses, mais en même temps, complètement annulé devant le maître du monde. Ça veut dire fort dans ton extériorité, mais complètement accroché à Hachem dans ton intériorité. Ça, c'est la véritable dimension d'un homme authentiquement spirituel. C'est pour ça que nous n'avons pas le choix. Nous devons retrouver la vraie Torah. Nous devons fuir tous les discours religieux qui nous disent « Sois gentil, aime ton prochain comme toi-même, ne dis de mal sur personne, sois gentil. » Tous ces discours, il faut les fuir. C'est des discours de curés, qu'ils soient juifs ou non. Il faut trouver des maîtres qui nous parlent de la Torah authentique, qui nous révèlent ce que la Torah demande de nous. C'est cette Torah que nous devons rechercher. Et elle existe dans notre génération, cette Torah. Même si 99% des enseignants de Torah disent exactement le contraire de ce que j'enseigne aujourd'hui. Mais cette Torah, elle existe. Et c'est cette Torah qu'il faut rechercher. Apprendre à être fort tout en étant annulé. Et ça, c'est la chose la plus difficile au monde. Ça, c'est le vrai combat de l'homme. Être à la fois tout en haut et tout en bas, comme Moshe, le plus grand de tous et le plus humble de tous. Le jour où il y aura de plus en plus d'hommes et de femmes qui arriveront à faire cette synthèse en eux, à réunir et à unir les deux extrêmes, la puissance d'un côté et l'humilité de l'autre. Le jour où on retrouvera cette dimension, on préparera l'armée du Mashiach pour délivrer le monde, pour qu'on redevienne tous des hommes et des femmes authentiques. C'est ça notre mission sur terre. C'est ça la seule vérité de la Torah. Et c'est en ce sens que nous devons la rechercher de toutes nos forces, rechercher ceux qui l'enseignent d'une manière authentique, de manière à nous reconstruire en tant qu'hommes, de redevenir de véritables êtres humains. Que le Maître du Monde nous aide à trouver cette véritable Torah. Amen. Vechen Yehi Ratzon.